Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Un podcast France Culture.
Et bonjour Alexandra Delbo.
Et bonjour Guillaume.
Ce matin, les conséquences du réchauffement de l'océan et de son acidification sur la vie marine, eh bien ces conséquences ont été largement sous-estimées.
Oui, ce sont deux des grandes manifestations du changement climatique. D'un côté, l'océan absorbe une grande partie du réchauffement de l'atmosphère, ce qui provoque une hausse globale des températures de l'eau. On en a entendu parler régulièrement l'année dernière lors des canicules marines, mais même en dehors de ces événements extrêmes, c'est un phénomène continu et global. De l'autre, l'excès de CO2 atmosphérique se dissout dans les eaux planétaires, ce qui diminue le pH et augmente donc la acidité de l'océan. Ces changements environnementaux ont des effets sur les espèces, à l'échelle individuelle c'est certain, sur le déplacement des poissons par exemple, le blanchiment des coraux, la prolifération des micro-algues, mais à l'échelle globale, les résultats peuvent sembler parfois contradictoires. Joachim Claudet est directeur de recherche CNRS au CRIOB et co-auteur de l'étude parue dans Nature.
Il y a une très grande diversité de formes de vie dans l'océan et donc nécessairement une manifestation en réaction aux effets du changement climatique très diversifiée. Par exemple, le changement de température de l'eau conduit à des effets différents selon que les espèces peuvent se déplacer ou non, par exemple. Ensuite, un deuxième élément, c'est que les manifestations, par exemple, de l'acidification vont être différentes selon que les organismes ont besoin de calcification, par exemple certains mollusques qui ont des coquilles, ou des organismes qui n'ont pas besoin de cette calcification pour leur squelette, par exemple. Et quand on dit qu'il y a des résultats contradictoires, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on voit qu'il peut y avoir des choses qui sont mauvaises pour la survie, mais bon pour le métabolisme, positives sur la croissance, mais négatives sur le développement. Et donc, il est très difficile de faire un état des lieux générique qui concerne toutes les diversités des formes de vie, où on puisse généraliser de manière sûre la directionnalité des effets, c'est-à-dire si c'est positif, négatif, sur l'ensemble des paramètres dont je viens de vous parler.
Alimentation, croissance, comportement, reproduction, survie, il y a tout un ensemble de catégories de réponses possibles, souvent classées en positive ou négative. Je vous donne un autre exemple. Par positive, on peut penser à l'augmentation de la disponibilité alimentaire. Avec la prolifération de micro-algues, certains coquillages ont tout simplement plus à manger, mais sortir pour aller manger est davantage en soi un risque pour la survie. Alors, est-ce que la somme de ces réponses comportementales est positive, négative ou nulle? C'est là où c'est un petit peu contradictoire.
Pour s'affranchir des additions et soustractions, cette étude donc propose, Alexandra, de regarder non pas le résultat, mais la tendance.
Et oui, parce que ces petits calculs ne sont pas applicables aux écosystèmes entiers, donc l'objectif de cette étude est de traiter l'ensemble de ces paramètres comme une méta-analyse. On en parle souvent ici en santé, quand on accumule plusieurs études pour augmenter la taille de l'échantillon et sa force statistique. Ici, c'est pareil, mais avec les tendances de chaque paramètre. Alimentation, survie, reproduction, physiologie, comportement, développement. Dans quelle direction va chacun de ces paramètres face au réchauffement de l'océan ou son acidification? Résultat, les réponses des poissons et invertébrés face au changement climatique ont été très largement sous-estimés.
Donc on n'a pas uniquement considéré les réponses positives ou négatives, on s'est dit un changement par rapport à la normale, s'il est significatif, il va potentiellement apporter des modifications dans la biologie, dans la physiologie de l'espèce et dans la réponse de l'écosystème. Et quand on a fait ça, on s'est rendu compte qu'on avait pu sous-estimer de manière extrêmement importante, à plus de 2 fois la réponse des écosystèmes aux effets du changement climatique. Parce que quand on fait ça, on prend en compte 2 fois plus de réponses que si ça n'avait pas été le cas. À ce moment-là, on voit des effets du changement climatique sur les écosystèmes bien plus importants que ce qu'on aurait pu penser. Prenons l'exemple de la croissance. Croître plus vite et donc avoir besoin potentiellement de plus, mais peut-être pendant une courte période, Quelle va être l'implication sur les écosystèmes? Ça, on ne le sait pas encore. Une augmentation du métabolisme, quelle va être l'implication en chaîne sur les écosystèmes? On ne le sait pas encore bien.
Les inconnues sont encore nombreuses et c'est pourquoi on a besoin de savoir comment ces modifications, ces déviations par rapport à la normale vont influencer l'écosystème entier. Pour cela, il faudra tout autant faire des études à l'échelle individuelle, espèce par espèce, que des études globales comme ces méta-analyses.
Merci beaucoup, Alexandra Delbault.